Deux orientations aujourd'hui qui se retrouvent dans la joie de l'Esprit Saint. Tu m'expliques. Donc, dans les Actes des Apôtres, nous avons la suite d'hier où Paul parlait aux Juifs. Et puis, voilà qu'il se met à parler aussi à des non-Juifs. Toute la ville se rassemble. Ça fait quand même 2-3 personnes. Et ce rassemblement déclenche une jalousie. C'est intéressant déjà de voir cette prise à la jalousie. Je ne sais pas si vous savez techniquement ce qu'est exactement la jalousie. La jalousie, c'est un truc très très Burke. Ça consiste à être triste de la joie des autres. C'est pas « j'aimerais bien avoir ce qu'elle a »,« j'aimerais bien avoir ce qu'il a ». Ça, c'est de la jalousie entrée de gamme. Mais la vraie jalousie, c'est la tristesse de la joie des autres. C'est absolument Burke. Et c'est intéressant parce que vous voyez, à cette jalousie correspondra justement à la fin de la lecture la joie des disciples. Ils étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. C'est indissociable. La vraie joie, celle qui dure, celle qui est authentique, est précisément authentifiée par la présence du Saint-Esprit. La joie, c'est pas du plaisir. Le plaisir n'est pas mauvais. Mais c'est autre chose. La joie, ça a quelque chose de spirituel. Alors que le plaisir, c'est quelque chose d'incarné. Voilà. Et donc, vous voyez, jalousie, agitation, poursuite, expulsion. Quatre mots et qui peuvent nous permettre... de ne pas nous inquiéter quand cela nous arrive, parce que nous avons eu l'audace de dire quelques mots qui relèvent de la vérité, c'est-à-dire du Christ et de son évangile. C'est intéressant de savoir ça, et c'est très beau de voir que donc Paul et Barnabé sont mis à la porte, mais que les disciples, qui ne sont donc pas Paul et Barnabé, en tout cas pas eux seuls, il y a aussi tous ceux qui se sont convertis, demeurent malgré tout dans la joie. Vous voyez, on pourrait imaginer une tristesse, quoi, parce que ceux qui nous parlaient sont partis, qu'est-ce qu'on va devenir, que sais-je, enfin, comme il y aurait une dépendance à l'égard de Paul et Barnabé. Et en fait, là, ce que nous montre ce texte, c'est que l'Esprit-Saint se transmet sans jalousie. C'est-à-dire que celui qui, par lequel il transite n'est pas appauvri du fait que l'Esprit-Saint va reposer sur l'autre. C'est un peu comme la flamme. Quand vous allumez une bougie à une flamme, la première flamme n'est pas diminuée. Pas du tout. Voilà, c'est la même idée qui est derrière. Et l'Esprit-Saint se propage et on demeure dans la joie. Et c'est très très intéressant parce que c'est pas du tout vrai de nos sociétés où si vous avez du pouvoir, j'en ai moins. Est-ce que le maire a du pouvoir? Est-ce que le procureur a plus de pouvoir? À quel endroit est-ce que je peux avoir plus de pouvoir? Et que sais-je? Et toujours. Et en fait, l'Esprit Saint, c'est pas du pouvoir, c'est du service. Quoi. Et le service, ça se multiplie sans diminuer. Enfin, c'est juste dingue. Et alors, dans l'Évangile, c'est évidemment pas tout à fait le même thème, hein, puisqu'on est en amont dans l'Évangile. Hein, les Actes des Apôtres, c'est après, même si Jean a été écrit très tard. Donc, Jean écrit tardivement ce qu'il a vu bien avant, évidemment, les Actes des Apôtres. Et là, on découvre un truc de dingue. C'est complètement dingue. Et on n'est pas forcé de le comprendre tout de suite. On le comprend quand l'Esprit-Saint nous le fait comprendre, et on le comprend toujours mieux d'abord, Et puis on peut passer devant des textes 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, et puis un jour, paf, on se dit waouh. Et donc, Jésus nous parle du Père. Donc il y a le texte bien bien connu qu'on a eu à la Saint-Philippe et Jacques, le 3 mai. Montre-nous le Père et ça ira bien, quoi. Ça va, c'est quand même ce qu'il faut. Et là, Jésus lui dit la phrase bien connue aussi, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Bon. D'abord, c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand vous regardez Jésus sur la croix, vous voyez le Père. C'est deux fois, hein, c'est révélé. C'est quand même pas banal, quoi, d'abord. Sauf que le Père est caché en Jésus, mais Jésus est caché dans le Père. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Donc on voit qui, en fait? On voit un seul Dieu, mais on voit trois personnes. On voit au moins deux dans l'espèce. Le Fils, le Père qui est en lui, et dans le Fils, il y a deux natures, la nature divine qui est unie à celle du Père et qui fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, avec l'Esprit Saint, et la nature humaine que nous voyons sur la croix sous forme humaine. Précisément, il a pris une forme humaine. Bon, ça c'est déjà quelque chose, mais à la limite, vous le saviez peut-être déjà. Et Jésus ajoute, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc d'abord, c'est extrêmement intéressant de savoir que dorénavant, quand vous entendez Jésus dire un truc, vous vous dites, c'est le Père qui parle. Eh oui, il faut juste être cohérent, hein. Donc, dire « je ne sais pas, le Père, ça ne me parle pas », tout le monde éclate de rire, quoi, parce que le Père, il parle par Jésus. Donc, si, il te parle. Il faut aller au bout de ce qui est écrit. Hein. « Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » Donc, le Père fait ses œuvres et l'humanité du Fils, c'est-à-dire Jésus, accomplit les œuvres du Père, qu'il voit donc faire par son Père. Ça, c'est du Saint Jean, c'est presque à toutes les pages. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas que le Père est en moi, croyez au moins à cause des œuvres, puisque les œuvres que je fais sont en fait les œuvres que le Père me montre à faire. Je pense que jusque-là, ça va encore. Et puis Jésus dit un truc, il dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais ». C'est quoi les œuvres que Jésus fait? Ce sont les œuvres du Père. Alors là, premier scoop, si vous ne le saviez pas, « Celui qui croit en Jésus fait les œuvres du Père ». Donc, les actions bonnes que vous posez, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la suite de Jésus, sont des actions inspirées par le Père. Alors pour débaptiser, on va dire, finalement c'est pas tellement un scoop, puisque on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc on sait que depuis notre baptême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous. Je suis d'accord, d'abord je vais pas être d'accord, c'est la vérité, bon. Sauf que, peut-être que vous vous disiez, le Père est à demeure, on est bien content, mais il ne fait pas beaucoup de bruit. Hein. On cherche un peu à le rencontrer à l'extérieur. C'est saint Augustin. Je cherchais à l'extérieur celui qui était à l'intérieur. C'est la même chose, c'est le même truc qui est raconté là. Donc, si vous faites des œuvres bonnes, ce n'est pas vos œuvres, c'est les œuvres du Père. Le Père fait ses œuvres en toi, parce que tu crois en son Fils Jésus. Ça, c'est assez chaud quand même, hein, je trouve. Donc, tu fais quoi là? Je fais une œuvre de mon Père. C'est qui ton Père? C'est le même que le tien, c'est le même que celui de Jésus. C'est impressionnant quand même, hein, quand on réfléchit deux secondes. Ça veut dire que quand vous faites une œuvre bonne, c'est une œuvre du Père, quoi. Et Jésus ajoute un truc de fou, il en fera même deux plus grandes. Attends, là il y a quand même un truc bizarre. Jésus a fait les œuvres du Père, et tu vas où, toi? Je vais faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Ben oui, évidemment, puisque je vais faire les œuvres du Père, et que Jésus n'a pas épuisé toutes les œuvres que le Père veut faire, parce que les œuvres du Père sont inépuisables. Et donc, si le Père inspire, permet, accomplit en moi certaines œuvres, peut-être qu'il peut m'amener à poser des œuvres que Jésus n'a pas faites. Alors là, vous dites, oula, on est où là? Ben regardez Pierre. Pierre, quand il monte au temple, dans les Actes des Apôtres, on vous dit qu'on mettait les malades sur les places pour qu'au moins son ombre les touchât. Il n'est jamais écrit dans l'Évangile que l'ombre de Jésus guérissait les gens. Jamais. Eh bien, l'ombre de Pierre guérit les gens. C'est pas plus grand que ce qu'a fait Jésus? Ben non, c'est pas plus grand parce que c'est toujours une œuvre du Père, en fait. Mais c'est plus grand parce que Jésus, donc l'humanité, dans son, cette humanité qui est la sienne, n'a pas accompli cette œuvre-là. Vous voyez, Jésus n'a pas fait descendre le feu du ciel. Ma connaissance, c'est pas rapporté dans les évangiles. Donc vous voyez, en fait, c'est pas un concours. Donc il n'y a pas de jalousie. C'est toujours les œuvres du Père. Donc les œuvres bonnes sont les œuvres que le Père fait en nous. Donc ça veut dire que le Père est à demeure. Donc comme je vous ai dit, on le savait déjà, puisqu'on est baptisé. Oui, sauf que ce n'est pas la peine de chercher le Père à l'extérieur, il est à l'intérieur. Si vous voulez que le Père agisse en vous, croyez en Jésus. Entre parenthèses, c'est juste une paraphrase de « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Le Père est en moi, dit Jésus. Donc si tu crois en Jésus, tu crois que le Père est en lui. Si tu crois en Jésus, tu fais les œuvres que Jésus fait. Or, les œuvres que Jésus fait, ce sont les œuvres de son Père. Donc, le Père est en toi. C'est assez dingue, hein, ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous mesurez que nous avons donc à demeure, comme baptisé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la question, c'est, je fais quel usage ? Quand je pose un acte, la paternité de cet acte, c'est qui? C'est Satan ou c'est le Père? Ben, des fois, c'est pas le Père. Hein. Et pourtant, il demeure là. C'est très très bizarre. Il n'y a pas d'acte qui enlève le baptême. C'est irréversible, un baptême. Vous pouvez le nier, le refuser, ok, d'accord. Mais il n'y a pas d'acte qui détruise le baptême. C'est quand même assez impressionnant, hein, y penser. Donc voilà, vous avez le Père à demeure chez vous. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Parce que ben, maintenant, il va falloir apprendre à écouter. Qui est-ce qui aide à écouter? Je pense que vous le savez déjà, c'est le Saint-Esprit. Du coup, quand Jésus se retirait dans la montagne, c'est pas parce que le Père était caché derrière un rocher, c'est parce que c'est dans le silence et la paix que l'on entend le Père, qu'on lui parle comme un papa, que l'Esprit Saint nous le fait entendre, nous fait crier « Abba », ça veut dire « papa » en hébreu, hein, sur les marchés juifs, dans les souks. En Israël, quand vous voyez des petits-enfants et qui appellent leur papa, ils disent « Abba ». Les œuvres du Père ne sont pas épuisées. Ça fait 2000 ans que ça continue. Voyez. Voilà, donc je trouve que c'est quand même une nouvelle assez prodigieuse. Peut-être ça ne vous parle pas encore, mais c'est pas grave, hein. C'est quand c'est l'heure. Donc le Père est en nous. Donc ça veut aussi dire que nous avons en nous le Père. Ça veut dire que nous sommes appelés à ce que, en nous voyant, les gens voient le Père. Non pas parce que nous serions divins, on ne l'est pas, hein. Grosse déception, non pas parce qu'on serait divins, mais parce que, par les œuvres, nous avons cette grâce reçue de Jésus de poursuivre les œuvres du Père qui peut être en nous, qui est en nous, et que nous pouvons apprendre à fréquenter, à écouter. Évidemment, les œuvres que nous ferons n'ont pas la portée salvifique, unique, de celle que Jésus a fait en mourant pour nous. Ça, c'est fait, c'est réglé, il n'y a plus à le faire. D'abord, on ne peut pas, c'est pour ça que Jésus, c'est pour ça que le Fils a pris une humanité, c'est qu'aucun homme, uniquement homme, ne pouvait faire ce qui devait être fait. Donc Dieu, dans son humilité, s'est fait homme pour que ce soit un homme quand même qui nous ramène à Dieu. Ce qui est une... C'est même plus de la délicatesse, là, c'est... On reste bouche bée, quoi. Donc évidemment, l'effet des œuvres du Père, que le Père qui est en nous nous donne à faire, sont la continuation de ce que Jésus a fait. Voilà, il y a de quoi méditer là-dessus, à mon avis. Et ben, allez-y.